Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et sans attendre, nous retournons à Nice, de nouveau endeuillé par un attentat islamiste.
Oui, 4 ans après l'attaque sur la promenade des Anglais, la baie des Anges renoue avec l'enfer. Un homme armé d'un couteau a égorgé 3 personnes hier dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Le sacristain Vincent Lequès, père de 2 filles, il aurait fêté ses 55 ans aujourd'hui, mais aussi 2 paroissiennes de 44 et 60 ans. Julien Fautra, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL sur place. Bonjour.
Bonjour.
Ce matin, on peut le dire, Nice est bouleversée.
Oui, en effet, une très forte émotion ici devant Notre-Dame. Une couronne déposée ce matin avec écrit « Nice debout, reposez en paix ». Toujours aussi quelques bougies et des fleurs blanches. Stéphanie passe ici tous les jours pour aller travailler.
De la tristesse, de la surprise. À chaque fois qu'on croit que c'est fini, ça revient, quoi. On continue à agir normalement, mais on y pense, quoi. Parce que là, le centre-ville, en vrai, on peut y aller n'importe quand, quoi.
Pour bien comprendre, c'est vraiment une rue que tout le monde emprunte.
Ah oui, c'est le centre de la ville. Il y a toutes les boutiques. Pour prendre un autre bus, je passe tous les jours ici. Avant, j'habitais à côté, donc ici, c'est vraiment le centre de la ville, quoi.
L'avenue Jean Médecin, cette artère commerçante bondée tous les jours de la semaine, c'est ici que dès l'aube, Michel fait son footing quotidien.
Je veux pas changer mon habitude de courir le matin, mais je cours pas avec le... je suis pas serein comme d'habitude, quoi. C'est l'habitude, c'est calme, c'est relax, on est serein, mais là, c'est pas possible. Quand je vois ça, ça me rappelle ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais. Et ça, c'est dur à vivre. Ouais.
2016-2020, la promenade des Anglais, aujourd'hui Notre-Dame, est visée à nouveau un symbole, un lieu emblématique de la vie des Niçois.
Julien Fautra en direct de Nice pour RTL. L'auteur de cette attaque sanglante a été neutralisé par la police. Il est à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un jeune migrant tunisien. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
C'est un document retrouvé sur lui qui a permis d'établir son identité.
Oui, un papier de la Croix-Rouge italienne au nom de Brahim A, un Tunisien de 21 ans. Il serait passé par l'île italienne de Lampedusa le 20 septembre dernier avant d'être transféré vers le continent début octobre. Il n'a pas encore pu détailler ses motivations. Mais des éléments ont été retrouvés par les enquêteurs dans la basilique, un Coran et des couteaux lui appartenant. Et puis au moment de son interpellation, il a crié à la Ouakbar, a menacé les policiers. Arrivé très récemment sur le sol français, il y a quelques heures ou quelques jours, a précisé ce matin le ministre de l'Intérieur sur notre antenne, il n'était enregistré dans aucun fichier.
Et grâce à la vidéosurveillance, on a quand même pu reconstituer son parcours.
Absolument, hier matin, il arrive un peu avant 7h en gare de Nice, prend le temps de changer quelques détails de sa tenue vestimentaire. Pénètre dans la basilique, toute proche vers 8h30, armée d'un couteau. C'est là qu'il égorge une fidèle et le sacristain blesse mortellement une 3e victime. L'enfer dure plus d'une 20 minutes avant l'arrivée des policiers qui sont obligés de lui tirer dessus à plusieurs reprises pour le neutraliser. Gravement blessé par balle, il a été transféré à l'hôpital.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
Cet attentat est le 3e en un mois en France.
Oui, il intervient 2 semaines à peine après l'attaque contre le professeur d'histoire Samuel Paty. Le plan Vigipirate a été relevé au niveau urgence attentat, autrement dit le plus élevé. Cela signifie que des effectifs de police peuvent être mobilisés de façon exceptionnelle. Hier, ce sont des policiers municipaux qui sont intervenus et ils ont pu agir parce qu'ils étaient armés. Le débat est donc relancé, Marie Mollet.
Oui, certains élus de droite, comme Laurent Wauquiez, y voient la preuve de la nécessité d'armer la police municipale et avec des armes létales. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a doté ses policiers d'armes à feu jour et nuit. Il demande à ce que leur pouvoir soit étendu, mais attention, dit-il, leur rôle premier ne peut pas être la lutte contre le terrorisme.
Je ne crois pas que ce soit le rôle de la police municipale que de s'engager sur le terrain du terrorisme. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de la police nationale. Nous, on ne peut être qu'en appui, en soutien.
Armer les polices municipales, l'idée continue d'hérisser une partie de la gauche. L'écologiste David Béliard, conseiller de Paris, veut éviter la prolifération, dit-il, d'armes à feu.
Lorsqu'on met plus d'armes dans l'espace public, eh bien on multiplie aussi le risque de voir des accidents se faire. Ce n'est pas aux polices municipales de lutter contre le grand banditisme et le terrorisme. Et à la police nationale d'assurer, elle, les missions qui sont les siennes.
Et aujourd'hui, un peu plus de la moitié des policiers municipaux sont armés.
Marie Mollet du service politique d'RTL. La question qui sera peut-être abordée ce matin, un conseil de défense est prévu. C'est la France qui est attaquée, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, mais nous ne céderons rien. Ce sera la grandeur de la France de battre cette idéologie avec l'état de droit, mais sans réformer la Constitution. Ça, c'est ce que vient de dire Gérald Darmanin, qui était l'invité d'RTL Matin. En filigrane, il y a encore et toujours les caricatures de Mahomet et la lutte contre l'islamisme. Mais l'attaque est unanimement condamnée. La Turquie a exprimé sa solidarité en condamnant une attaque sauvage en France. Le Conseil français du culte musulman demande l'annulation de toutes les festivités du Mawlid, la fête de la naissance du prophète.
Dans un instant, confinement acte 2, tout ferme, mais la Fnac Darty vient d'obtenir une dérogation. On va vous expliquer ça dans quelques secondes.
RTL Matin.
RTL 8h07, la suite du journal d'Isabelle Choquet. Confinement acte 2, jour 1. Pendant un mois au moins, nous allons vivre à nouveau avec cette règle de base, rester à la maison.
À nouveau, tous les commerces jugés non essentiels ont dû baisser le rideau, 200 000 en tout, mais la bataille pour les dérogations est lancée. Et dans cette lutte féroce, Fnac Darty vient de marquer un point, Anaïs Bouissou.
Oui, ce matin, les 728 magasins Fnac et Darty qui existent en France seront bel et bien ouverts. C'est ce que nous confirment les enseignes. Et figurez-vous que ce n'est pas une insurrection, ils en ont le droit.
Et comment est-ce possible ?
C'est dans un décret qui est paru cette nuit avec la liste précise des magasins autorisés. On peut y lire « commerce de détail d'ordinateurs »,« commerce de détail de télécommunications », réparation d'ordinateurs et un petit dernier, commerce de détail de journaux et papeterie. Entre les ventes d'ordinateurs, les téléphones indispensables au télétravail, les fournitures de bureaux de la Fnac et le service après-vente de Darty, ce sont donc au moins 8 exceptions écrites noir sur blanc qui sauvent ces magasins du confinement et pas que quelques rayons. Tout le magasin, c'est bien légal, paru au journal officiel et les services de Bercy nous le confirment également ce matin.
Merci Anaïs Bouissou. Les librairies, elles, sont bien fermées et par solidarité, le prix Goncourt qui devait être décerné le 10 novembre a été reporté sine die. Les détails de ce confinement bis ont été précisés hier soir par Jean Castex et plusieurs de ses ministres. C'est le grand retour des attestations de sortie, mais désormais il y en a 3, dont 2 permanentes à signer par l'employeur ou par l'école. Car cette fois, les enfants ne sont pas privés de classe, mais le protocole sanitaire a été renforcé. Et la grande nouveauté, c'est le masque obligatoire dès l'école élémentaire. Ça, on ne l'avait pas vu venir, Yannick Collant.
Oui, le port du masque à l'école, c'est une surprise pour ses deux copains, Sacha en CM1 et Elias en CM2.
Après, il y a 2 minutes qu'il faut mettre le masque à la rentrée.
Ça va faire bizarre, parce que j'avais pas besoin de porter le masque.
Moi, je porte le masque dans le tram et dans le bus quand on y est. Je portais un petit peu le masque pendant la journée quand on rentrait du confinement.
Cette obligation, c'est plutôt un cauchemar pour Sacha. Vincent, son papa, se souvient encore de la seule fois où il a essayé de lui faire porter un masque dans le TGV.
Alors, masque pour enfants, je ne savais pas que ça existait. La difficulté, c'est l'absence d'habitude de respirer avec le masque. Et mon fils a très vite abandonné.
Il a abandonné au bout de combien de temps dans le TGV ?
Au bout de quelques minutes.
Parce que j'arrivais plus bien à respirer sinon.
C'était 5 minutes. Mais le fait que le masque soit rendu obligatoire favorisera finalement cet apprentissage.
Là, tu tiendras 4 heures jusqu'à la cantine ?
Je pense pas. Ça va être dur.
Et pour les parents, la difficulté, ça va surtout être de trouver suffisamment de masques taille enfant pour tenir toute une semaine.
Un reportage RTL signé Yannick Holland. Le nouveau protocole sanitaire, cela dit, ne satisfait pas les syndicats. Selon eux, la sécurité des élèves et des enseignants n'est pas garantie. Le SNES, premier syndicat du secondaire, a d'ores et déjà déposé un préavis de grève pour la semaine de la rentrée. La semaine prochaine, donc, sur le plan strictement sanitaire, le bilan de l'épidémie en France dépasse désormais la barre des 36 000 décès, avec plus de 3 000 malades en réanimation. Notez que l'Europe va débloquer 220 millions d'euros pour financer les transferts de patients d'un pays à l'autre. Une plateforme commune va être mise en place pour connecter pour collecter les données en temps réel. Un mot du football. Oui. Une victoire hautement symbolique en Ligue Europe pour Nice face à l'Hapoël Beersheva. Score final 1-0. Les deux équipes avaient observé une minute de silence avant le coup d'envoi. Dans le même temps, Lille a été accroché à domicile. Match nul de partout face au Celtic Glasgow.
C'était le journal d'Isabelle Choquet. RTL salue ce matin la formidable carrière de notre confrère Pierre Julien, spécialiste des armées, de l'aviation. Il a fait ses premiers pas à RTL le 1er avril 1979. 41 ans de carrière et c'est aujourd'hui son tout dernier jour parmi nous. Une carrière rythmée notamment par 17 missions en Afghanistan. Un confrère bon vivant, motivé, toujours disponible, même lorsqu'il est réveillé à 2h du matin pour venir travailler, attentif aux autres. Il apporte chaque 1er mai un brin de muguet à tous les collaborateurs. Notre colonel Pierre Julien, patron de Jeep FM, part donc à la retraite aujourd'hui. Une retraite plus que méritée et nous lui souhaitons évidemment tout le bonheur du monde. Merci beaucoup Pierre, tes amis d'RTL. Notre météo tout de suite. Marina Giraudot.
De la douceur. De la douceur dès ce matin. Températures qui sont en hausse. D'ailleurs, par endroits, on est 5 à 7 degrés au-dessus des moyennes de saison, hein, au nord du pays. C'est là où c'est le plus doux. Et puis cet après-midi, il y aura de la douceur pour tout le monde. Températures qui gagnent 1 à 3 degrés par rapport à hier après-midi. On attend 14 à Langres, 15 à Metz. Vous aurez 16 à Lille cet après-midi, 17 à Paris, au Havre, encore à Mulhouse. 19 à Lyon, à Clermont-Ferrand, Limoges et Nantes. 21 à Bordeaux et à Toulouse. 22 à Marseille et 24 degrés cet après-midi à Nîmes. Alors côté ciel, ce matin c'est quand même bien chargé. On a pas mal de passages nuageux sur la moitié nord, parfois des petites bruines, du vent, donc c'est assez chargé. Sur le sud-ouest, il s'agit surtout de brumes et de brouillards, et par endroits, ces brouillards d'ailleurs sont vraiment denses, donc prudence. Parfois on voit pas à 60 mètres, notamment en Vergnières ou encore Cognac. Dans le sud-est, le soleil va être présent dès le lever du jour, hein, c'était après, il était là, pas de nuages, et ce soleil va gagner du terrain. Ce soleil va vraiment gagner les deux tiers sud du pays, donc ça va aller de mieux en mieux en allant vers les Pays de la Loire, le centre-Val de Loire, le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, sud Alsace jusqu'à l'est de la Bretagne, juste patienter. Et puis pour le reste du tiers nord du pays, de l'ouest de la Bretagne à l'Île-de-France et en allant vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine, vous allez garder un ciel bien nuageux, du vent et quelques bruines.
Merci beaucoup.